Bonjour à tous, merci à tous d'être venus. Donc cette table ronde va traiter, comme vous le voyez sur le PowerPoint au fond, des bases communicants entre les littératures de l'imaginaire et les jeux de rôle. Donc pour cela, on va procéder à quelques questions simples pour aborder des points essentiels de ces deux médias. À chaque fin d'intervention de nos intervenants, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, d'intervenir, de poser des questions. Une limite de temps impartie pour essayer de ne pas trop déborder. Il y aura quelques questions comme ça et ensuite on conclura sur un petit débat pour essayer de faire avancer un peu le débat. On verra ce qu'on peut faire. On va commencer avant ça par contre par une petite présentation de tout le monde. Donc pour ma part, je suis dans le milieu du livre depuis quelques temps, critique littéraire sur le net en amateur, faute de mieux. Et donc du coup, rôliste depuis, malgré mon âge, depuis 10 à 15 ans, donc voilà. On s'est proposé tous ensemble aujourd'hui de traiter de ce sujet pour essayer d'apporter quelque chose.
On ne m'a rien proposé, on lui a imposé.
On va commencer. Très bien.
Moi j'ai
un micro volant.
Bonjour.
Bonjour. Voilà. Je m'appelle Fabien Hinwein, je suis auteur de jeux de rôle. Je viens de publier en indépendant mon troisième jeu de rôle. J'ai notamment écrit Sphinx et Neustatos. Je suis ici donc à la fois avec cette casquette-là d'auteur de jeux de rôle, également parce que c'est la question des liens entre littérature de l'imaginaire et jeux de rôle, c'est quelque chose qu'on creuse avec pas mal de gens depuis longtemps, notamment des gens de la librairie Caribde, si vous la connaissez à Paris, voilà, sur lesquels on a pas mal de liens et de réflexions. On avait aussi fait une rencontre sur les questions de littérature et jeux de rôle il y a quelques temps. Voilà.
Bonjour, je suis donc Jean-Laurent Del Socorro. Donc je suis auteur d'un jeu de rôle qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Circus, voilà, qui est un studio d'édition qui s'appelait Oui, Extraordinary World Studio, qui n'existe plus. Je suis aussi auteur de romans. J'ai mon premier roman, Royaume de vent et de colère, qui est sorti cette année aux éditions ActuSF. Et je fais aussi un peu de nouvelles. Ma dernière nouvelle, je vais vous montrer le lien et la thématique de cette table ronde. C'est une nouvelle qui est parue dans le magazine Cassius Belli, dans l'univers de Shadowrun.
Bon, salut mes camarades déjà. Coucou.
Alors, moi j'ai eu privilège de bosser sur des gammes telles que Pendragon, Cyberpunk, tantôt en tant que chef de projet ou en tant que scénariste, baisse rapportée. Sur d'autres gammes aussi, c'est une petite dizaine d'années que je publie maintenant, en scénariste, auteur, pigiste, baisse rapportée. Et depuis quelques temps déjà, j'anime une émission web sur la chaîne du joueur du grenier. Je suis le MJ donc de cette table au caractère très, très spécial. Est-ce que c'est réciproque? Donc c'est une autre expérience du jeu de rôle. Hein. Et plus récemment, j'ai pu travailler sur l'adaptation des Lames du Cardinal, donc de Pierre Pavel, de la trilogie en jeu de rôle, qui a imposé une certaine norme, un certain code, et c'est, j'imagine, pour ça aussi que je suis là.
Pas du tout.
On vient d'aller voir. Donc voilà, bonjour à tout le monde, merci d'être là.
Donc voilà, après cette rapide présentation, on va passer d'emblée à la première. Premier point, si ça vous va bien, messieurs. Donc le premier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est concerné la narration. Nous avons deux médias ici, le jeu de rôle et la littérature, qui sont deux médias qui sont très attachés à l'objet du livre. Et du coup, on a toujours le classique livre de règles pour commencer un jeu de rôle. Je voulais qu'on réfléchisse ensemble comment la narration pouvait passer à travers le jeu de rôle jusqu'à la littérature ou à travers la littérature jusqu'au jeu de rôle en ayant tête que, ben, par exemple, en littérature, on a le concept de l'auteur, voilà, qui nous propose un univers dans lequel notre imagination peut vagabonder, mais il y a un univers fermé qui est écrit dans les pages, alors que le jeu de rôle apporte, par exemple, plus de points sur le partage de la narration entre le maître de jeu, en anglais qui se dit storyteller, donc littéralement celui qui raconte l'histoire, et les joueurs qui ont aussi une place dans l'animation de l'univers qui est proposé. Donc le premier point serait de voir si vous pourriez chacun nous donner une vision, qui, des idées, de réflexion sur cette narration qui peut être partagée, puis passée en roman, donc hiérarchisée, ou à l'inverse, d'abord hiérarchisée, comme par exemple pour les larmes du cardinal, puis passée au partage de la narration dans le jeu de rôle.
On va passer dans le sens des aiguilles d'une montre, je t'en prie.
Un petit peu...
Bon. Alors, pour replacer, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais donc je fais partie d'un groupement d'auteurs qui s'appelle Atelier Imaginaire, sur lequel on explore beaucoup toutes les questions de partage de responsabilités, donc dans le jeu de rôle, c'est-à-dire sortir un peu de ce qu'on connaît habituellement en termes de scénario et de place du meneur de jeu dans le fonctionnement d'un jeu de rôle dit, enfin des jeux de rôle qu'on a habituellement. Ce qui veut dire que ce qui nous intéresse, c'est comment les règles vont pouvoir créer une certaine dynamique entre les participants pour amener un certain type d'histoire. Je suis plutôt dans une mouvance dans laquelle ce qu'on cherche, ce qui nous intéresse, c'est que tous les participants puissent créer cette histoire. Donc comment on fait pour induire des codes, comment on fait pour marquer certains éléments. On parle, nous, beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire qu'en général, on s'arrange pour que le système de jeu pointe sur des enjeux particuliers. Et donc, comme le système de jeu invite à s'intéresser, voire récompense certaines actions, certaines manières de construire l'histoire, eh bien, on va obtenir certaines histoires particulières. Pour vous donner un exemple assez rapide, un jeu de rôle qui s'appelle Prosopopée de Frédéric Saintès, qui a la particularité d'être très contemplatif, très zen, voire pacifiste, c'est-à-dire que les moyens violents, la violence n'obtient pas plus de résultats que d'autres moyens. Comment on fait pour avoir des participants qui vont particulièrement faire attention particulièrement à leur description, ce qui est une vraie question pour le jeu de rôle et à la fois pour la littérature. On va poser une règle qui est que c'est un univers qui est sans nom propre. C'est-à-dire que plutôt que de dire Madame Machin et Monsieur Truc, on va dire la femme au chapeau, l'homme au costume rouge. Et donc que petit à petit, on ne va pas parler de dragon, on va parler d'un gros lézard qui crache du feu, etc. Enfin, et donc on va pousser ainsi, enfin on va forcer même ainsi les participants à faire attention à la description. De l'autre côté, on a un système de récompense où quand vous trouvez que quelqu'un d'autre raconte quelque chose d'intéressant, de beau, vous pouvez lui donner des ressources qui lui permettent d'avancer dans la partie. Donc voilà, pour répondre un peu à cette question qui, sur laquelle j'avoue que je ne suis pas très à l'aise, je crois que nous, ce qu'on peut apporter dans la réflexion de voilà, si je veux jouer tel type de fiction, tel type de littérature en jeu de rôle, il faut penser à partir des enjeux que peut proposer le système pour structurer ce que les participants vont créer.
Je te remercie pour ton intervention. Tu veux enchaîner directement ?
Non. Je reprends en fait le fil de ce que tu amorces. J'aurais juste reprécisé peut-être un élément. Moi, quand j'entends narration, pour resserrer un tout petit peu le propos, il y a la narration littéraire donc, qui est dans le cadre d'une création livresque, qui soit soit romanesque, soit d'une série, soit d'une nouvelle. Et peut-être dans la narration du jeu de rôle, le scénario, parce que c'est vrai qu'il y a effectivement l'univers du monde, l'univers des règles. La réflexion, elle est peut-être là entre. D'un côté, on a un scénario, ou une campagne. De l'autre côté, on a un objet livre romanesque. D'un côté, sur le roman, sa vie latérale est imposée. Il y a un auteur qui va imposer à un lecteur sa vision d'un déroulé, donc une narration qu'il a construite seule, de son côté, et qu'il impose, d'un point A à Z. Techniquement, le lecteur aurait la liberté d'aller de sauter des chapitres, mais au-delà de ça, voilà, la narration, le livre est quand même construit pour que la narration elle soit maîtrisée par celui qui l'a écrite au départ. Dans l'idée d'un scénario ou d'une campagne, dans le jeu de rôle, il y a quand même quelque chose de très différent, c'est-à-dire déjà, il faut que je découvre, que j'écrive un scénario, que je me l'approprie en tant que meneur, et ensuite, il faut que je le restitue à des joueurs, et on va co-construire l'histoire ensemble. Alors certes, j'ai des éléments que je veux mettre en place, certes, il y a une narration globale que je veux induire, mais globalement, c'est les joueurs qui font l'histoire. C'est-à-dire, c'est un moment s'ils veulent aller à gauche et à droite, donc on renverse un peu le propos, c'est moi qui ai c'est le meneur qui a une idée de finalité, mais la narration elle est bien tenue par les joueurs. C'est eux qui racontent l'histoire, et le meneur en fait, réagit par rapport à ce qui se fait. Donc on est pour moi quelque chose de très différent. D'un côté, quelque chose qui est bilatéral imposé, l'écriture, et de l'autre côté, quelque chose qui est paradoxalement, c'est entre guillemets le lecteur, donc l'acteur de le rôliste en fait, qui joue, et c'est celui qui paradoxalement connaît la narration qui doit s'adapter à l'histoire. Et après c'est co-construit, c'est-à-dire que tout le monde est au même niveau, presque.
Alors c'est une vaste question, et c'est marrant parce que je ne vois pas tout à fait les choses de la même manière, bien que c'est plus une adéquation avec ce que tu dis toi, dans la mesure où je vois la narration comme une expérience, et la question du vaste communicant entre la littérature et le jeu de rôle, c'est comment restituer l'expérience, c'est-à-dire comment restituer les sensations. Quand vous allez lire un roman horrifique, c'est dans la mesure où il y a une transcription de ce roman-là horrifique en jeu, c'est comment transcrire les codes, c'est-à-dire comment avoir les mêmes sensations. Et là, ça passe par une mécanique, par une logique qui va faire que le créatif va se dire... à quel moment celui qui va jouer, donc le joueur, le co-acteur, va ressentir les mêmes choses que moi quand j'étais lecteur du roman. Et là, c'est très intéressant au niveau de la narration parce qu'on met en place des mécaniques ludiques qui n'imposent pas aux joueurs de lire le roman de A à Z pour ressentir finalement la même chose que le roman horrifique ou dans... l'expérience qui me concerne.
Les inscriptions pour le tournoi Shinra sont ouvertes à la du plateau.
Je ne me concerne pas. Ah, merci. Et dans l'expérience qui me concerne, qui est celle des lames du cardinal, où nous sommes dans un monde typique de KPDP, la question du vase communicant, c'est comment, en jouant en tant que joueur, en faisant une partie de JDR, je vais avoir les mêmes sensations qu'en lisant le roman. Et en lisant le roman, Je sens le vent dans les cheveux, je me bats sur un moulin, je suis en train de donner un coup d'estoc contre quelqu'un, mi-homme, mi-dragon. Maintenant, c'est comment, autour de la table, alors qu'on me raconte une histoire, la mécanique de jeu va faire en sorte que, dans la narration, je puisse vivre les mêmes choses. Et là, ça commence à être vraiment très intéressant, car nous sommes en effet sur deux médias vraiment différents, mais aux sensations qui doivent se respecter l'une et l'autre.
On voit effectivement qu'il y a des points de vue qui, je pense, ne sont pas forcément opposés, mais qui peuvent apporter des éléments différents.
Ouais, j'ai l'impression, mais bon, c'est dû un peu au fait que le jeu de rôle est plus jeune, qu'on réfléchit beaucoup les choses en termes de comment de la littérature on va amener les choses vers le jeu de rôle, ce qui est la réponse que j'ai donnée tout à l'heure, hein, donc je m'inclus tout à fait dedans. Je pose simplement la question, dans quelle mesure c'est possible dans l'autre sens? Là c'est peut-être plutôt ceux qui ont écrit des...
C'était justement des points suivants.
Ah ben...
tu triches, tu as lu sa copie.
Et voilà, j'ai lu déjà le scénario de l'EPI.
Oui, justement, il y a deux points justement qui ont été abordés par Jean-Laurent d'une part et par Maillard.
d'autre part, c'est, et du coup que Fabien a relevé également à la fin, le premier c'est la part de l'improvisation. Puisque comme le disait Jean-Laurent, en jeu de rôle, on est certes, quand on est MJ, le storyteller, mais ce sont souvent les joueurs qui nous surprennent et qui nous font sortir de scénarios conçus. On doit du coup improviser. Donc la part de l'improvisation, elle est pour moi assez essentielle dans l'élément narratif du média jeu de rôle. Et j'ai perdu mon fil.
Tu parlais de jeu de rôle.
Oui, je parlais de jeu de
rôle. Oui et non. Hein. Enfin, en ce qui me concerne, comme justement on développe les jeux sans scénario, c'est des jeux dans lesquels, quelle que soit l'action du joueur, elle est toujours présente. Par les règles, donc je nuance un peu ce que tu disais.
Voilà. C'était pour le dire de façon caricaturale, pour bien schématiser, mais tu fais bien d'entrer dans la nuance, c'est toujours plus sympa. Et donc l'autre question, c'était justement le point suivant, après, point après lequel on fera peut-être intervenir le public s'il y a des réactions, c'est toujours sympa, c'était les bases communicantes directement entre les deux médias, c'est-à-dire comme tu le soulevais à la fin, à partir de quel moment on peut dire que le jeu de rôle influence ou porte ses armes sous l'étendard de la littérature, par exemple. Et un bon exemple qui m'est venu en tête en préparant cette table ronde, c'est celui de Cédric Ferrand. Cédric Ferrand qui a commencé par écrire des romans, en étant rôliste depuis très longtemps. Il a ensuite adapté son roman Weisberg en jeu de rôle. Ensuite, il a créé un jeu de rôle, Sovok, qu'il adaptait en roman. Donc, du coup, avec lui, on a les deux aspects. C'est-à-dire que d'abord, il a commencé par le média traditionnel, on va dire historique, du monde de l'imaginaire, c'est-à-dire la littérature classique, on va dire, avec ce roman Weisberg, qui n'a rien d'un classique au final. Et derrière, il l'a adapté pour en faire un jeu de rôle où la narration, justement, est très partagée. Et je rejoins le point que tu avais tout à l'heure, comment les règles peuvent récompenser les actions des joueurs. Il y a tout un principe d'aubaine, on va rentrer là-dedans. Et de l'autre côté, il a créé un jeu Sovok qui a généré un tel univers fourni qu'il était capable, derrière, d'en faire un roman qui, du coup, a une vie propre, indépendante du jeu de rôle, et qui du coup, s'en démarre en étant issu. Donc voilà, c'était sur ce point-là que je voulais apporter le débat en commençant par la narration. Voir par exemple, bon, Cédric Ferrand est bien sûr un exemple, un tout autre exemple est bienvenu, mais voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce chemin ? Meilleur, je vois que tu ouvres la bouche.
C'est quoi la question ?
La question, c'est, par exemple, en se basant sur l'exemple de Cédric Ferrand, dans quelle mesure vous pensez que le jeu de rôle influe directement sur la littérature ? Est-ce que vous avez des exemples d'impact direct que la culture de la table de jeu a apporté à la culture de l'écriture?
Alors, Allô? Voilà. Excusez-moi. En plus, tout ça pour dire que non, pas vraiment. J'allais surtout passer le micro à mes camarades qui ont dû répondre en mieux que moi à ces questions-là.
Tu disais que le jeu de rôle est un média jeune, on attend de voir les exemples. Je pense que depuis le début, en fait, cette idée de c'est un jeu, mais on va en faire des novélisations, on va en faire des romans, ça existe depuis le début. Je pense pour Donjons et Dragons, qui est quand même l'ancêtre du jeu de rôle, il y a eu toute la série de Drizzt, puis après toutes les chroniques de Dragonlance, puis ensuite les Royaumes oubliés. Donc très vite, quand même, il y a eu le besoin de dire c'est un univers qui est tellement riche. On peut le décliner sur l'aspect roman. Donc on a tout de suite, hein, dès l'apparition du jeu de rôle, je pense qu'on a eu cet effet-là, c'est-à-dire on peut aller plus loin. Alors paradoxalement, avec des jeux d'aller-retour assez intéressants, si on prend l'univers de Dragonlance, on a un univers, on a des scénarios, un jeu de rôle à la base, qui devient une série, je ne me rappelle plus l'auteur, mais vraiment une série à succès, je crois qu'il y a quand même une communauté assez forte de Dragonlance.
Weiss.
Merci. Donc de Weiss. Et qui va revenir après au jeu de rôle, parce que je crois qu'en plus qu'une partie de la saga est réadaptée sous forme de campagne. Enfin bref, on est très proche, hein. Puis du coup, c'est un tout petit peu hors débat. En plus, avec l'apparition du jeu vidéo, en plus on se retrouve avec un troisième média qui répond encore. Aujourd'hui, l'explosion du jeu de société, on a encore le jeu de société qui vient là-dessus. et tout ça s'auto-alimente, c'est ce qu'on appelle. Ah bon, il y a quelque chose d'assez intéressant autour de ça, il y a une exposition à la maison d'Alger.
Tu fais bien de parler de jeux vidéo parce qu'aujourd'hui ça devient presque une mode quand une licence de jeux vidéo apparaît, diffusée, comme Assassin's Creed, Splinter Cell, la logique veut qu'il y a les romans adaptés des jeux vidéo qui apparaissent. Donc c'est, les bases communicantes sont, les frontières sont beaucoup plus minces aujourd'hui entre JDR, jeux vidéo et littérature. Ça paraît beaucoup plus naturel maintenant.
Jeux de plateau aussi.
Ouais, jeux de plateau, c'est quand même plus.
Magic.
Magic. Oui, c'est un bon exemple. C'est pas d'exemple en tête. C'est pour l'argent.
Mais c'est vrai qu'on pense tout de suite en déclinaison globale aujourd'hui. Même si c'est qu'un jeu vidéo, on pense tout de suite à tout ce qu'on peut avoir derrière. Et pareil aujourd'hui sur un roman, surtout quand on vient de l'univers ludique. Donc c'est intéressant. On parle maintenant d'univers qui sont déclinés sous plein de médias différents. Et plus forcément, en fait, en tout cas de moins en moins, de dire c'est un jeu de rôle, puis on va faire un roman, puis ainsi de suite.
Tout à fait. Et justement, c'était le but, c'était justement de voir à quelle place peut se situer l'auteur, qu'il soit auteur de roman, auteur de scénario, dans cette globalisation perpétuelle en fait du média et de l'histoire qui est racontée. Et c'était pour ça que voilà, je vais amener le débat un peu sur ce sujet, parce que ça me semblait intéressant de voir que par cette communication entre les différents médias, on en arrive un peu à un flou global. Par exemple, la licence, tu parlais des Splinter Cell juste avant, c'est Tom Clancy, Splinter Cell, et du coup c'est adapté de romans de Tom Clancy en jeu vidéo et à nouveau en roman. Voilà. Et donc du coup, à quelle place se trouve l'auteur là-dedans? Et est-ce que justement la narration n'est pas devenue, on va dire, dans la généralisation de cette façon de procéder, est-ce que l'auteur n'est pas devenu, entre guillemets, pas esclave, mais dépendant des acteurs, enfin, dans le jeu vidéo, mais là on va rester sur le JDR, parce que c'est quand même le sujet, où se trouve l'auteur et quelle place il peut occuper dans cette communication une fois qu'il a créé son truc, son bébé, et qu'il l'a lancé dans le vaste monde. Sur ce.
J'aimerais juste boucler sur un truc par rapport à où va se communiquer sur ce que la manière dont le jeu de rôle amène le roman. J'aimerais juste conclure sur un point là-dessus, qui est une expérience, encore une fois, qui est la mienne, qui vaut ce qu'elle vaut. Après l'adaptation des Lames du Cardinal en jeu de rôle, j'ai vu plein de personnes qui sont venues me voir en me disant ça a l'air sympa comme jeu de rôle, ça vient de quoi ? Ah, ça vient d'un roman, eh bien je vais lire le roman. Et que le jeu de rôle motive ou pousse les gens à lire la littérature, à lire des romans, ça c'est formidable, parce que spontanément, ils n'iraient pas vers ces romans particuliers, ou peut-être même vers des romans particuliers. Donc l'un porte l'autre, et ça c'est cool.
Je me permets juste de te devancer une toute petite dernière fois. Pour illustrer ce que tu dis, c'est complètement anecdotique, même dans le fonctionnement du jeu, mais par exemple, dans le jeu de rôle, le Vesper, issu du roman, c'est différent, les joueurs qui ont lu le roman ont droit à un avantage supplémentaire sur les autres qui n'ont pas lu le roman. C'est un avantage qui se doit d'être inutile, mais qui existe quand même. Donc c'est une petite valorisation, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, à travers les règles, à travers le système de jeu, moi je t'ai mal compris, de valoriser le... Bon, il me corrige. Mais voilà, donc il y a ça qui commence parfois. Donc, le jeu Vesper n'est pas non plus le jeu le plus connu du monde, c'est pas une grande série à succès, mais on voit que c'est un jeu qui, quand même, dans le milieu, ou un roman qui ont fait leur petit trou, et donc, qui commence d'abord à implémenter ces petites choses, et donc du coup, ça, c'était pour illustrer, et j'ai parlé beaucoup trop.
Donc. Si la question que tu nous poses est toujours celle de l'auteur entre littérature et jeu de rôle, je peux parler de mon expérience. Je sais que quand je développe un jeu, je commence jamais, par un livre. En général, je commence toujours par une expérience de jeu. En général, je joue une partie et puis dans la partie, je me dis « Ah tiens, par exemple, là, je parle de mon dernier jeu Sphinx. Dans une autre partie d'un autre jeu, on a découvert des ruines et c'était vraiment cool. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer un jeu qui nous permettrait de répéter cette expérience de jeu et de garder ce cool qu'on n'arrive pas à définir au départ. Donc, comment on trouve des règles qui nous permettent de recréer ça, c'est-à-dire de recréer ces enjeux. Et en général, une fois que j'ai cette idée-là, je me dis, bon ben, je vais chercher des fictions. Et quand je dis des fictions, c'est vraiment au sens large. Ça peut être à la fois des livres, mais aussi des jeux vidéo, par exemple, pour Sphinx, je peux penser à Myst, à Journey, qui est sorti il n'y a pas longtemps, où il y a beaucoup cette exploration de ruines. Et c'est là que je me dis, bon, je cherche à comprendre ce que, dans ces fictions, quels sont les enjeux fictionnels, si vous voulez, les plus importants. Et puis c'est ces enjeux fictionnels que je vais mettre au centre. Donc par exemple, typiquement, là, la découverte des ruines, vous voyez, dans Myst, la dimension la plus importante, c'est vraiment comprendre ce qui se passe ici et puis arriver à défaire les énigmes. Tu vas peut-être me dire que je suis déjà en train de penser à la question suivante, mais je pense qu'il faudrait aussi parler de la place du participant en jeu de rôle.
C'est la question suivante.
Ok, alors je garde ce que je viens de raconter.
On est bon.
Je pose comme prochaine question qui est la base au modérateur dans la conférence.
Je te rejoins assez là-dessus en fait. Ce qui est intéressant, c'est que tu soulèves la notion de simulation de sensation. On a besoin, on a envie de reproduire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il simule? Qu'est-ce qui fait que la sensation va être répétée? Donc ça, c'est assez intéressant. Pour revenir sur la notion d'auteur, normalement, dans le meilleur des mondes, dans lequel nous sommes, bien entendu, l'auteur est quand même maître de son œuvre. C'est-à-dire, sans son accord, ça ne devrait pas être décliné sous autre chose. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fonction, on va dire, de l'origine de l'auteur, on va voir qu'il y a des choses qui sont tout de suite innées, c'est-à-dire les gens issus du jeu vidéo, tout de suite, ils vont avoir l'idée de, non pas de créer un jeu vidéo, mais de créer un univers et toutes les ramifications que ça peut avoir. C'est très fort en jeu vidéo notamment. Sur un jeu de rôle aussi, c'est-à-dire tout de suite la notion des nouvelles introductions, peut-être, pourquoi pas un roman, est très forte. Et tout ça dépend vraiment de la volonté de l'auteur. Vous connaissez peut-être une petite série d'une auteure anglaise qui a fait un peu parler d'elle, Harry Potter, une certaine Rowling. Là, elle, par exemple, elle est contre le jeu de rôle. Elle interdit de commercialiser le jeu de rôle. Donc ça aussi, c'est intéressant, c'est de se dire, mais pourquoi elle ne veut pas que ce soit adapté en jeu de rôle au départ? Elle voulait juste...
J'ai essayé de l'inviter, mais elle n'a pas donné suite. Donc ça aurait pu être sympathique d'en discuter.
Ça a été vrai longtemps pour Anne McCaffrey. Ça a été vrai longtemps aussi pour Anne McCaffrey, qui a écrit Les Dragons de Pern. Et finalement, les rôlistes ont été tellement insisté. Elle a dit, ok, mais il y a certaines parties de l'univers dans lesquelles vous n'allez pas. Donc, des parties qui lui sont chères, personnellement. Parce qu'elle ne voulait pas avoir d'autres créateurs dans son univers.
Pour Rowling, c'était plus la volonté de garder tout pour elle, et qu'elle ne voulait pas voir les autres défigurer son univers. C'est une vraie question.
Je n'ai pas suivi tout en détail, mais par exemple, je sais que sur l'adaptation des films, le réalisateur du troisième, donc si je ne m'abuse, qui s'appelle Le Prisonnier d'Azkaban, a entre guillemets déchiclé parce que Rowling estimait qu'elle avait un droit de regard dessus, qu'il
n'était pas libéré. Oui,
tout à fait. Sur l'aspect esthétique, notamment, il a déchiclé. Donc il y a une maîtrise quand même au départ de ce qu'on veut en faire. Et d'où ça vient? Moi, ce qui m'intéresse, je rejoins aussi une question, c'est. En quoi ça l'embête que des gens fassent du jeu de rôle elle l'empêche pas. Il y a des gènes, mais pourquoi elle interdit qu'officiellement il y a un jeu de rôle qui existe? C'est intéressant de poser la question. Mais quand elle viendra la prochaine.
Peut-être.
Pour la place de l'auteur, dans les médias littérature et JDR, j'ai tendance à croire qu'il n'en a aucun. Il n'y a pas de place dans le JDR, il y a un rôle. Et son rôle, c'est de faire en sorte à justement faire ressentir ce que l'on ressent en lecture et en jeu, et faire en sorte à ce que les deux soient cohérents. À partir de là, sa place, s'il peut s'effacer le plus possible, parce que c'est ça le jeu de rôle, c'est qu'on ne joue pas le jeu de l'auteur, mais on joue au jeu. Et que le but du jeu de rôle, tu n'es absolument pas d'accord.
Je suis absolument pas d'accord, mais je suis censuré par le micro.
Merci le micro.
C'est pas vrai. Ouais, merci. Bon, je te coupe pas si tu veux finir, vas-y. Mais je tenais à dire que j'avais vraiment une. Mais c'est un peu une question de posture, c'est-à-dire que voilà, à nouveau, comme dit, on part dans un, on est dans un, une, c'est une chapelle, si vous voulez, où au contraire, on estime que l'auteur est particulièrement important, c'est-à-dire qu'il a un propos à apporter.
Je n'ai pas dit qu'il n'était pas important.
Oui, c'est vrai, mais même pas qu'il s'est passé. Oui, d'accord, non, t'as raison, t'as raison.
Tu arrêtes de me pointer du doigt.
toi aussi, tu m'as pointé du doigt.
Bêtement cerné, ok.
Non, tu as raison. Mais vraiment que l'auteur ne s'efface pas, c'est-à-dire que l'auteur a un propos, a une question sur laquelle il aimerait faire réfléchir les gens qui jouent à son jeu. Mais c'est juste parce que voilà, on essaie d'ouvrir des portes. Donc je dis pas que t'as tort, je dis juste qu'il existe d'autres.
Non, mais il y a encore une fois, il y a plein de manières de jouer au jeu de rôle, il y a autant de manières de faire du JDR que de table de JDR. La place de l'auteur, c'est juste une globalisation, c'est dire que l'auteur, pour réussir à transcrire ça, il ne doit pas parler forcément de lui, mais il doit parler du sujet. C'est le sujet qu'il veut mettre en avant et ce n'est pas lui, même si c'est lui qui le porte. L'idée à la fin, ce n'est pas qu'on dise on joue à Fabien Hildebrand. C'est on joue à Sphinx. Tu vois ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que Fabien est quelqu'un de moins important.
Oui, mais tu vois, j'ai tendance à construire, comme je disais, mes jeux à partir d'une expérience de jeu. Donc pour moi, tout ce qui est après, tout ce qui est univers, tout ce qui est. Ce sont des choses qui viennent a posteriori qui servent le propos ou l'expérience de jeu. Voilà.
On s'embrassera à la fin de la conférence quand même.
Oui, on se
fait bien.
Il y aura des de la boue, ça va bien se passer.
Donc voilà, il y a un tout dernier point, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui, parce que je pense qu'il faudrait me dédier 5 à 6 conférences de 2 heures spécifiquement, ou peut-être l'an prochain. C'est d'un point de vue légal, tous les bouleversements, les questions à l'heure actuelle qui sont posées au niveau social, au niveau de l'État, sur justement cette place de l'auteur, quelle est la légitimité des droits d'auteur, mais je fais que le mentionner parce que du coup on voit que ça frite. Non, simplement on voit que c'est des points qui sont liés avec la place à l'intérieur, je pense, de la narration, et il y a d'autres choses également, mais voilà. Donc c'est juste pour le mentionner. On va peut-être, si vous voulez, voir ce que le public peut en penser, si des gens pensent des choses, c'est intéressant.
Si vous pensez... C'est très sympa, mais t'as un mec super adorable en fait.
Je voulais simplement revenir sur le dernier point qui était abordé, parce qu'il est encore frais dans ma mémoire, et que tout le monde pourra se remémorer les choses à un moment. C'est en gros la place de l'auteur dans le jeu de rôle. Déjà, je vais être très consensuel, et en tant que question, ça va pas être super constructif. Mais quelque part, je suis d'accord avec vous, mais pas totalement. Par rapport à la place du storyteller qui va retranscrire les sensations du lecteur, je vois ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme que vous avez employé. Je pense que quand on est spectateur, en l'occurrence lecteur dans un livre, on n'a pas forcément le même ressenti que quand on est joueur dans une aventure. Mais après, je comprends vraiment ce que vous voulez dire. Après, vous allez me préciser. Exactement, oui. Le MJ doit s'effacer. C'est-à-dire que c'est pas lui qui prend la place, c'est son histoire. Et là, par contre, ça va être contre vous, donc vous allez aussi jeter les tomates. Je suis d'accord aussi avec ce que vous dites, c'est que l'auteur a une importance prépondérante parce qu'il est à l'origine, c'est vraiment le noyau de ce qui va développer un jeu de rôle, un univers, et ces choses-là. Mais par contre, comme ça a aussi été dit, il y a autant de tables de Sphinx, il y a autant de façons de jouer à Sphinx qu'il y a d'exemplaires qu'on démontre quelque part. Je ne sais pas combien, mais
38 ce soir. C'est sorti avant-hier, donc ça va.
Mais tout ça pour dire qu'en fait, à partir du moment où le livre est vendu et où c'est un autre MJ que l'auteur, donc le premier MJ qui va masteriser, là, c'est vraiment une théorie qui vient du théâtre, je vais reprendre pour le côté de faire chier tout le monde, mais on va vraiment mettre en scène le jeu de rôle à sa sauce. Et c'est plus ou moins une mort de l'auteur. Là, vous allez vraiment détester. Mais voilà. À partir de ce moment-là, l'auteur, pour l'ensemble des gens de la table, n'hésitez pas à nous appeler le soir, vous personnellement, pour savoir quel est le point de vérité.
Alors son numéro, c'est le 06.
On doit se dire que l'auteur est mort, qu'on n'a plus besoin de le déranger, qu'il a enfermé sa vérité dans un livre. Après, l'avantage de drôle, c'est qu'il y a des extensions, des corrections, des choses comme ça. Mais la vérité est fermée entre ces quelques pages, et après, c'est au maître du jeu de remettre ça en scène et d'en faire ce qu'il en veut avec ses joueurs.
Alors là, tu es en train de passer sur la troisième question.
Je suis fou, en fait.
Je sais, tu fais la merde.
Alors, je peux y répondre.
Vas-y.
On te laissera la parole après. Bon, effectivement, il y a la question de faire la différence entre auteur et alchimiste. Moi, je répète, dans les jeux que je développe, mais que je ne suis pas le seul, on cherche à ce que l'auteur soit vraiment présent dans les règles et que, oui, il y a un vrai message, une vraie discussion à travers le... Un peu, si tu veux, à travers les règles, comme tu as une discussion à travers un livre, de cette manière. C'est-à-dire qu'en actualisant les règles, en les jouant, tu réponds à des questions que te pose l'auteur. Je fais un peu rapidement. Donc, je tiens à ma position. Oui, et à nouveau, je suis dans une posture dans laquelle on affirme que c'est aux règles plus qu'aux efforts du meneur de jeu d'amener le ressenti, si tu veux, à travers une dynamique de table. Mais je peux comprendre que c'est pas exactement... Enfin, je peux comprendre. D'accord. Je suis pas sûr. Enfin, voilà. Il faudrait qu'on en discute plus longuement, mais...
Autour d'un café, par exemple.
Histoire d'avancer, on va voir si... Les autres intervenants ont quelque chose à dire pour prendre une deuxième question avant de passer au point suivant.
Oui, j'irai.
Ah oui, le théâtre.
Le théâtre.
Oui, j'avais quelque chose à dire sur le théâtre, trop tard.
Tu veux que je te rende le micro ?
J'en parlerai pour les participants.
D'accord. Juste, je vais faire très très vite. Juste sur la place de l'auteur, pour être très clair. Sur la part de l'auteur, on va dire romanesque, de fiction, à un moment il disparaît, enfin, c'est évident. C'est-à-dire que je pense que l'auteur en France, surtout de romans, il est très important, il y a quelque chose d'un peu intouchable, il brille la nuit. Il faut laisser tomber. À partir du moment où il est lu, c'est réapproprié par son lectorat. J'ai quand même des gens, pour mon expérience personnelle, des gens qui me réexpliquent le roman. Donc, déjà, un, c'est gagné. Et deux, ça prouve bien que le monde vit sans nous. On n'a plus besoin de nous. À moins, ça nous échappe totalement. Donc, ça, c'est le premier point. Le second point, au niveau du jeu de rôle, surtout sur l'adaptation effectivement, d'une fiction, on a un auteur qui délivre à des lecteurs, donc qui ont leur propre filtre. Qui vont s'approprier leur propre vision de ce récit, qui va être adapté par des gens qui ont leur propre récit du monde, qui vont être adaptés, portés par un MJ et sa propre version du jeu de rôle, du jeu en général, plus de l'univers, pour le retransmettre à sa sauce, à des joueurs qui eux-mêmes vont avoir une certaine réceptivité. Donc on voit que l'auteur, en fait, il est totalement dilué là-dessus, et qu'on est bien sur un aspect de... on veut faire partager quelque chose qu'on a aimé, on veut faire partager un univers qu'on a aimé, on veut faire partager une histoire qu'on a aimée. Finalement, l'auteur, au bout d'un moment, il est plus central.
Ouais.
Maya, est-ce que tu voulais réagir ?
Je suis d'accord.
Merci, Maya. On va prendre la deuxième question.
Pour moi, en fait, l'auteur n'a plus du tout sa place, donc dès qu'on reçoit le livre du roman, les premières lignes du livre, c'est vous pouvez modifier des règles en fonction du public que vous avez.
Pas dans les miens. Une manière de faire. Moi j'en ai une autre sur la place. Mais là on est en train de parler de la place de l'auteur dans le jeu de rôle, et j'ai l'impression qu'on s'éloigne beaucoup de littérature des jeux de rôle.
Tout à fait.
Je me demande si les auteurs de JDR qui mettent dans leurs ouvrages « Allez-y, faites-en ce que vous voulez », ce n'est pas par dépit finalement. Parce que quand on écrit un JDR et...
Je suis d'accord avec toi.
Le bisou.
Parce que on a, en tant que créatif autour du JDR, on a tous envie que le client qui achète notre jeu le transcrit comme on l'a écrit. On a envie qu'il le joue comme on l'a dans notre tête. Sauf que on le voit tellement modifié, tu disais, les retours, les gens qui t'expliquent ton propre jeu ou ton propre roman. C'est l'assimilation, elle est toujours impersonnelle. Tu peux jamais être, à moins de livrer ton numéro de téléphone, tu peux jamais être dans le salon de ces joueurs, tu peux jamais. Donc, il faut finalement accepter. Tu es prêt à
dans mes jeux, il y a mon mail. Dans mes jeux, non, mais c'est vrai, dans mes jeux, il y a mon mail, et vous pouvez m'écrire et me dire tiens, qu'est-ce que t'as pensé de ça, comment tu fais jouer ça, etc. Voilà.
Pourquoi tu t'es mis à l'écriture? T'as déjà des questions comme ça, genre, fondamentales sur ta volonté, ou tu as des questions, enfin, c'est une vraie question d'expérience.
Oui, oui.
Est-ce que les questions qui te parviennent sont d'ordre ludique ou d'ordre originel? C'est-à-dire, est-ce qu'on te demande pourquoi est-ce que tu es... Pourquoi? Qui es-tu? Dans quelle position?
Oui, alors ludique, oui, du genre, comment tu utilises cette règle? Tiens, ça, j'arrive pas à comprendre. Et parfois aussi, oui, des gens qui viennent me dire « Je trouvais que c'était intéressant, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là ?» En tout cas, je trouve que c'est intéressant de pouvoir échanger avec ces joueurs au sens large du terme. Et puis, je pourrais bien répondre complètement, mais le problème, c'est que si je le fais, je dois partir sur des théories sur pourquoi, à mon avis, il n'y a pas vraiment de différence entre auteur et MJ.
On n'a que deux jours.
Et en plus, on sent vraiment
deux jours.
Et que moi, je suis autant joueur des autres que eux sont mes joueurs. Enfin, voilà.
Je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Une dernière question, monsieur avec la super casquette. Non, c'est à côté. D'accord.
Bonjour, moi c'est Jérôme. J'ai une question, une affirmation, une croyance personnelle, demande à votre ami. Je pense que le jeu de rôle a le défaut d'avoir le MJ au-dessus des règles. L'interprétation du MJ devient une sorte de 5% supériorité par rapport à tout ce qui peut être écrit dans le jeu, et autant l'interprétation qu'on peut avoir de Harry Potter, que sais-je, jamais on se dira « Pour moi, Draco Malfoy est une femme », on ne pourra pas le changer dans le texte. Ce n'est pas primordial, notre interprétation ne change pas le livre. Et je pense que le fait qu'en jeu de rôle, on se garde le MJ comme au-dessus du texte, nuit à la littéralité du jeu de rôle.
Tu veux parler des chutes de cathédrale?
On peut en parler, mais c'est pas...
Non, mais c'est là.
C'est quoi les chutes de cathédrale?
C'est le châtiment.
Chute de cathédrale, bonhomme.
Voilà, c'est le châtiment suprême que, dans certains milieux de jeu de rôle, on va dire plus détendu, on accorde au maître de jeu. Voilà.
Et si c'est à Gabou, il est béni en arbre.
Est-ce que l'un d'entre vous a une réaction sur l'affirmation de Jérôme, c'est ça? Parfait.
Merci Jérôme. C'est un point de vue, c'est-à-dire que tu dis que le MJ, c'est un défaut, le jeu de rôle a un défaut d'avoir le MJ au-dessus des règles, mais c'est ce défaut-là qui permet au jeu de rôle d'exister. Et l'humanité est largement perfectible.
Juste de coup de plateau, tout ça, oui, je pense que c'est un point de vue, surtout pour aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeux, justement, sans MJ, collaboratifs, où tout le monde est au même niveau, donc je pense que c'est de moins en moins vrai. Et puis là, vraiment, je pense qu'on est vraiment dans l'expérience personnelle et de comment on a été initié au jeu de rôle, quel rapport on a par rapport à ça, quel jeu on a commencé, parce que je peux t'assurer que sur certaines tables, un peu intégrées de par exemple, de Légende des Cinq Anneaux ou de Vampire, C'est pas le MJ qui maîtrise du tout la situation, hein. S'il sort du canon, c'est un peu ça. Donc, ouais, non, je te rejoins pas là-dessus. Je pense au contraire que de plus en plus, c'est bien, le MJ est plus le sacro-saint au-dessus de tout.
Oh, puis être MJ, c'est quand même une lourde tâche, et de plus en plus, les jeux modernes apprennent à partager, pour rejoindre un peu la mouvance. Tu fais partie, ouais, toi et les tiens.
Jérôme et moi, on fait partie un peu de la même chapelle, hein, on va se le dire. Non, mais pour être clair, sur. Oui, attention, il n'a pas dit qu'il était au-dessus du joueur, il a dit qu'il était au-dessus des règles. Or, justement, nous, ce qu'on cherche à définir, c'est de proposer des règles qui, même contraignent le MJ, mais pour de bonnes raisons. Parce que justement, ça permet de ramener des enjeux. Mais je ne vais pas épiloguer parce que.
En parlant de règles qui contraignent les
jeux. On parle pas de jeu de rôle et littérature.
Il y en a une pour cette table ronde qui est l'horaire, où j'y suis contraint, donc on va user du sacro-saint pouvoir de modérateur pour avancer. Au point suivant qui est consacré justement à ce que tu as abordé tout à l'heure, à savoir la place des acteurs, des joueurs, du théâtre. On va prendre Jérémy tout à l'heure qui est intervenu. Et tout ce qui est. Dans cette place des personnages, en fait, c'est de voir quel peut être réellement l'apport des gens qui sont, si on prend la traduction littérale de storyteller, des gens qui sont ex-storytelling, c'est-à-dire ex-narration, c'est-à-dire les joueurs. Les premières idées qui me viennent en tête à ce niveau-là, c'est tout ce que les joueurs construisent dès avant le début des parties, c'est-à-dire la création des backgrounds des personnages qui parfois diffèrent de celles de l'interprétation qui l'auteur du maître de jeu. Et par exemple en littérature, on a tout ce qui est fanfiction. Le lecteur qui n'est pas narrateur à la base s'empare d'une certaine façon de la narration. Ton aventure sur les internets récentes en est le témoin. Et du coup, on a à chaque fois deux façons différentes de s'emparer de la narration. Et je voulais savoir, de votre point de vue chacun, comment les gens qui ne sont pas censés, on va dire, à la base, je prends là juste la définition littérale, pas du tout l'interprétation, être dans acteur de la narration, deviennent en fait, ce que tu disais, se réapproprient, et quelle est leur place réelle dans cette communication entre littérature, narration et jeu. Fabien, il me semble.
Non, j'ai vraiment une idée qui me tient énormément à cœur sur cette question-là. Je crois que vraiment, la littérature est un bien meilleur exemple pour le jeu de rôle, en particulier pour les participants ou pour le meneur de jeu, quand il s'agit de faire des descriptions, que le théâtre ou le théâtre d'improvisation. Vous pouvez m'engueuler après sur le théâtre, mais il me semble que ça, c'est un truc que vraiment j'ai vécu pour avoir fait un peu aussi de théâtre d'improvisation. Si vous essayez de jouer, comme on joue au théâtre, quelque chose qui vous tient à cœur, et vous essayez de pleurer ou de montrer des émotions, j'ai jamais vu des gens qui s'en sortaient bien, si vous voulez, ou en tout cas ça résonnait autour de la table. Pourquoi ? Parce que on est tous assis, on a nos chips, moi je suis pas mon personnage, je suis pas acteur professionnel, donc si j'essaie de jouer, c'est-à-dire de jouer au sens théâtral mon personnage, ça rend mal. Vous avez certainement des contre-exemples.
La question ici, ce serait en fait.
Ce que je veux dire, c'est que.
De séparer le roleplay et l'interprétation ?
Je sais pas. Le roleplay, il y a tellement de définitions que je ne vais pas utiliser ce mot. Ce que je veux dire, c'est que. À mon avis, il vaut mieux, parce que la littérature est une bien meilleure source d'inspiration. Je termine mon raisonnement que le théâtre. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je dis, en étant assis avec mes chips, c'est tout, hein, mon personnage, mettons qu'il soit triste, ses yeux se mouillent, il a la gorge qui se serre, et puis il se tourne vers toi, et puis il te dit ça, c'était vraiment pas terrible. D'un seul coup, c'est beaucoup plus facile de faire résonner de l'émotion entre les participants. Tout ça pour dire que je trouve que la littérature, de ce point de vue-là, apporte beaucoup au jeu de rôle quand il s'agit de retranscrire, puisqu'on retranscrit à l'oral, ce que par ailleurs on pourrait retranscrire à l'écrit, apporte beaucoup de jeux de rôle de ce point de vue-là.
Donc juste, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris, mais par rapport à la question de la place justement
des participants
dans la narration.
S'ils prennent appui sur la littérature, sur ce qu'ils ont lu, sur une certaine manière de décrire les émotions, par exemple, plutôt que sur d'autres médiums, mais je pense par exemple au théâtre, je trouve que la littérature est beaucoup plus fertile et beaucoup plus riche de ce point de vue-là, un bien meilleur outil, si tu veux, pour les participants.
Donc pour prendre une métaphore vidéoludique, tu serais plus partant du coup de décrire son personnage, on va dire, comme dans un jeu à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on voit depuis l'arrière du personnage, plutôt qu'à la première personne où tu incarnes réellement ton personnage, c'est ça?
Si tu veux, oui, mais vraiment avec l'idée que la littérature et les descriptions, hein, oui, précisément, de la littérature, bien plus que je parle de mon personnage à la troisième personne. Vraiment, les descriptions de la littérature sont extrêmement riches et importantes, à mon avis, pour le jeu de rôle.
Enfin, je vais directement à la réponse, mais la place de ceux qui reçoivent l'histoire qui est donnée par le storyteller, elle est essentielle. Un jeu de rôle, si les rôlistes autour de la table s'emparent pas de l'univers, il n'y a pas de partie. Donc elle est essentielle. À un moment, c'est pour ça qu'à quel moment il faut faire tomber l'auteur, à un moment il faut faire tomber aussi l'œuvre. C'est-à-dire que l'œuvre, elle donne un cadre, elle est adaptée, mais finalement, c'est une matière, au même titre que les règles, au même titre que la capacité d'interprétation ou pas du MJ, et de l'envie de ce qu'il veut faire partager autour de la table, tout ça, ça fait un pacte. Je vous propose un univers médiéval fantastique, avec ce système de jeu, je commence à vous décrire l'univers, vous accrochez pas, et à un moment, les joueurs font le jeu. Enfin, on ne fait pas jouer dans un univers littéraire pour refaire le livre, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt.
C'est les mêmes sensations.
Voilà, on partage sa vision, son envie avec notre joueur. Ça marche pas. Il y a le pacte, on parle souvent du pacte autour de la table, le pacte rôliste. C'est exactement ça. Cet univers, il est super. En plus, il est tiré d'un roman. Bon, ça vous incite à le lire ou pas. Et est-ce que ça accroche? À un moment, il faut lâcher les rênes. Parce que ça n'a aucun intérêt pour moi.
Oui, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et c'est pas tant une question de place, en fait, sur les participants d'une partie de jeu de rôle que le but pour lequel ils sont ici. Et le but, c'est de contribuer à une histoire collaborative. Et leur place, c'est celle qui consiste à ne pas empiéter sur celle des autres. À partir du moment où il y en a un qui prend trop la parole, il n'est plus à sa place. Donc il y a ça. Et pour rebondir sur ce que disait notre cher ami modérateur, Fringant, c'est la place des acteurs extérieurs. Tu parlais de fanfiction. Alors autour de l'émission du Lord du Grenier, il y a une double émulation, c'est-à-dire qu'on essaie de se motiver les uns les autres pour continuer à aimer ça, de faire ce qu'on fait sur l'émission. Et on a été dépassé et très agréablement surpris par l'intervention extérieure de la création de ce qu'on appelle les fan art, des illustrations en veux-tu en voilà, mais par dizaines des personnes qui avaient leur propre vision du jeu dans lequel on jouait, des personnages, des antagonistes. Et mais les fanfictions, est-ce que vous êtes tous majeurs ici dans la salle ou pas? Oui? Non? D'accord. Il y a des fanfictions, mais hyper sexualisées, ou même moi, MJ, qui est une entité qui n'est pas dans le jeu, où j'ai des histoires d'amour, mais plus avec certains joueurs et même des personnages. Mais ça rend fou. Et je me roule en boule en PLS, quoi. Il y a des choses qui sont osées et c'est formidable, cette émulation créative. Et c'est autant symptomatique du plaisir qu'on a à vivre une histoire, une narration en littérature et en jeu de rôle, que symptomatique de la participation, de la contribution des acteurs autour d'une table de jeu de rôle. Chacun s'attribue la place qui lui plaît à partir du moment où elle n'enquête pas sur celle des autres.
Je pense qu'on a fait le tour de votre côté, vous avez peut-être encore envie de réagir. On va voir si dans l'assemblée, il y a des gens qui veulent...
Yes. Bonjour.
Chanté.
Un petit cuche. Bravo.
Par exemple, à les montées, la technicité des montées
expérience liée au rêve. Après, il y en a, je pense que du moment qu'ils ont passé un bon moment, qu'on a mangé des chips, et puis qu'on peut, surtout qu'on peut refaire l'histoire et un an plus tard se rappeler de la fameuse partie où, où tu te rappelles, tu as fait un 1 et ça a foiré toute l'aventure, voilà, ça suffit.
Alors j'ai un exemple concret pour illustrer ça. Alors je pense que c'est pas tant une question de récompense que de motivation. En fait, c'est comment motiver les joueurs par le biais des règles, par le biais du système, par le biais du jeu, pour qu'ils aillent dans le sens du MJ. L'exemple concret est le suivant. Il y a un jeu de rôle qui s'appelle Sion, qui est actuellement en déstockage chez Liz, c'est pour ça, et qui parle, donc c'est un peu, je ne sais pas si on connaît Percy Jackson. Le principe est le suivant, tu incarnes un personnage dont l'un des parents est un dieu ou une déesse, et tu te découvres des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Et dans les règles, tu peux donc activer des pouvoirs en dépensant ce qu'on appelle des points de légende, et à partir de là, le MJ invite le joueur pour qu'il décrive l'action épique. Par exemple, ça peut être soulever un camion, ça peut être séparer les eaux en deux, et c'est le joueur qui doit le faire. S'il le fait, il est récompensé en points de légende. Mais il doit dépenser des points de légende pour activer son pouvoir. Donc, mieux il décrit ça, mieux il est récompensé. Donc, plus il est récompensé, plus il est motivé pour aller dans le sens de la note d'intention du jeu, qui est du blockbuster Michael Bay, épico-fantastique. Et à partir de là, tu as un cycle qui se fait. Le joueur rentre dans la note d'intention du jeu, qui est faire de l'épique. Il va se mettre naturellement à dire « Ah, mais si je gagne des points de légende en faisant des actions épiques pour lesquelles il faut que je dépense des points de légende, je peux être super balèze !» Et bon, voilà, à partir de là, tout le monde est gagnant.
Donc, je pense qu'on a peu répondu à ta question quand même. Le dernier point que je voudrais aborder par rapport à cette interrogation, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup rencontré en tant que joueur, enfin, personnellement, et aussi en tant que MJ, en voyant le regard plein d'envie des joueurs, c'est cette notion qui est inculquée dans la génération qui est la mienne, depuis très longtemps, de progression. À la fin d'un scénario, une malle, soit d'expérience ou autre chose, tombe, qui permet de renforcer le caractère de son personnage, que ce soit dans ses compétences, ses caractéristiques, ou ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui est très ancré dans le milieu du jeu vidéo, par exemple, qui est de plus en plus ancré dans le milieu du jeu de plateau qui se passe en campagne, et qui est parfois ancré dans ce qu'on appelle les romans, on revient à la littérature, tout ce qui est littérature de récits d'initiation. On part, c'est un jeune padawan, et à la fin, c'est un chef Jedi qui, avec un seul chasseur de combat, a détruit quelque chose capable de détruire une planète. Donc voilà. Il y a ce côté de progression sur l'échelle des possibles et d'impact que le joueur peut avoir depuis le début, où en fait, alors soit on commence directement en étant au-dessus du commun des mortels, soit on commence dans le commun des mortels, et le but de beaucoup de systèmes de jeu, c'est de s'élever au-dessus de ça. Donc, effectivement, ce que l'exemple de Meillard sur Sion permet de créer un cercle vertueux qui permet au joueur de prendre conscience en décrivant lui-même tout ça. Mais il y a aussi d'autres je pense à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'est le système de jeu qui veut qu'on ait de l'expérience, qui nous fait progresser. On n'a pas forcément besoin de décrire systématiquement les actions, puisque les gens nous reconnaissent comme des héros, si j'en comprends pas. Donc voilà. Et peut-être aussi une piste de réflexion à avoir sur cette notion de progression, s'il y a un ou trois ou agir.
Oui, c'est juste pour dire que c'est vraiment un sujet qui est immense, en fait. C'est-à-dire que il y a des modèles théoriques complets de jeu de rôle. Quand on parle du GNS, le GNS c'est un modèle pour expliquer ça, c'est-à-dire pour expliquer les dynamiques sociales qui permettent de faire avancer la partie, et de plein de manières différentes. Mais si tu veux, on peut en discuter après la conférence avec grand plaisir.
Bien, alors, déjà pour revenir au sujet initial de la conférence, la question de littérature, alors vous remarquerez que la progression en littérature et en jeu de rôle est un peu déphasée, parce que souvent, quand on voit le héros d'un roman, on a envie d'être pareil, mais quand le roman est adapté en jeu de rôle, quand on crée un personnage, mais mince alors, j'ai pas les mêmes pouvoirs, je peux pas faire pareil.
Et on se rend compte que le héros de roman, c'est un peu plus triché quand même que ceux des...
Oui, tu vas terminer la petite conférence.
C'est ça.
Justement, là-dessus, je voudrais reprendre l'exemple de Cédric Ferrand, où dans son Asbourg, dans son roman, il n'y a pas de héros. La seule chose qui peut être considérée comme un personnage central, c'est la société de Vasbourg, la ville en elle-même.
Est-ce que
c'est le personnage qui évolue, qui progresse, ou est-ce que c'est la société qui progresse?
Dans ton exemple.
Alors, dans mon exemple, justement, j'allais y venir, la société ne progresse pas, elle est telle qu'elle est présentée comme immuable, comme une gangue dont on ne peut pas vraiment sortir une fois qu'on y est rentré. Et dans le jeu de rôle, donc dans le roman, les personnages ne progressent pas, il leur arrive des choses, on va dire ça comme ça. Et dans le jeu de rôle, on commence en ne connaissant pas forcément l'univers, parce qu'on n'a pas tous lu le roman à la base, donc souvent les joueurs y viennent. Et les personnages et les joueurs, du coup, ils ne progressent pas en termes d'expérience. Leur expérience en fin de partie sera la même qu'en début de partie, ils n'auront pas de nouvelles capacités. Par contre, là où ils progressent, où le joueur progresse, c'est dans sa connaissance de l'univers. Et donc, dans sa connaissance de l'univers, il se dit « Oui, mais le manchot qui est là-bas, qui voulait me vendre des fonds de bougie, et bien en fait, comme c'est le cousin de machin, et que je connais son cousin qui me doit de l'argent, je peux le faire chanter pour arriver à récupérer des fonds de bougie pour nous éclairer le soir à la caserne quand on joue aux cartes. » Ce qui est un point fondamental.
Est-ce que ça se sent dans le roman?
Et ça se sent réellement dans le roman, et c'est quelque chose que les joueurs arrivent à comprendre en jouant, qui retrouve dans le roman en se disant, et c'est cool, en lisant le roman, on a eu l'impression de rejouer, mais c'est pas nous qui jouons. Et du coup, je pense qu'il y a aussi autour de cette question de non-expérience, de non-progression, un concept de récompense du joueur. Parce que le personnage ne progresse pas, mais le joueur, lui, progresse dans sa compréhension, donc dans son interprétation, et donc la qualité de la partie de jeu s'en trouve rehaussée, à mon avis.
Là, le sujet commence à dérive.
D'accord.
Est-ce que c'est moi?
Oui.
Le sujet dérive un peu parce que sur Wattsburg, on joue à Wattsburg pour une question d'une expérience de jeu, alors que sur d'autres jeux, on va vouloir faire évoluer ce personnage. C'est vraiment ce qu'attend le joueur du jeu, et donc il ne va peut-être pas jouer à Wattsburg pour les mêmes raisons. Et la question de la progression, pour rebondir sur. Tu parlais des romans de Dries De Jordaen. Donc,
dans 20 minutes, un tournoi de
c'est bon, j'ai compris.
va commencer sur le pôle GN. Si vous êtes intéressé, merci de vous diriger vers les nappes rouges. Merci.
La notion de progression, le Dries De Jordaen, c'est un elfe noir avec deux cimetières, un de glace et l'autre je sais plus quoi, avec une créature qui peut invoquer. C'est complètement triché et c'est issu des romans. Et combien de joueurs, en lisant les romans ou en voyant les statistiques du personnage, ont dit mais un jour je deviendrai ça? Et en fait, jamais, c'est pas possible. Donc la notion de progression, elle doit être à l'échelle joueur pour que le MJ puisse continuer à cadrer, parce que si. Le personnage dépasse les règles, dépasse le pouvoir du MJ, entre guillemets, il n'y a plus d'intérêt à jouer une expérience, si ce n'est de jouer un jeu comme si on jouait le fils de Dieu, etc.
Donc du coup, comme le monde est bien fait, ce dépassage entre le jeu de rôle et la littérature montre voilà, que le principe, c'est le sujet de la conférence, des bases communicantes entre JV et littérature, je lis la peuple, parce que c'est simple, permet de voir qu'en fait la littérature elle communique vachement plus d'ambition, par exemple dans ce cas-là, au jeu de rôle que l'inverse dans la notion de progression. Oui, tu avais une question, on va faire ta question rapidement et ensuite on va passer au dernier point parce qu'il ne reste que 20 minutes et ça va être chaud.
C'est plus une remarque par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est pour ça que je me mets en rôle.
Vas-y.
J'ai remarqué par exemple sur un auteur que je ne sais pas si vous connaissez Jean-Philippe Jarossi, qui était auteur de TDE. Je pense qu'avec ce genre de personnage qui a fait le choix de passer sur le roman ensuite, alors qu'il avait un univers assez riche pour faire du jeu de rôle dessus, sur le gagner la guerre et tout ce qui s'ensuit. Oui, voilà, dans son écriture, narratif ou des personnages qu'on aurait pu voir sur le Seigneur des Anneaux, finalement, dans le Seigneur des Anneaux, tout ce qui est développement diégétique est à la fin du jeu, on annexe du livre à ton annexe, et l'histoire se concentre sur les personnages et les thèmes. Et donc le jeu de rôle, pour moi, peut être influencé la littérature. Le jeu de rôle et les autres formes de jeux, jeux vidéo et jeux de plateau, on va se répercuter sur ces livres de littérature de l'imaginaire, puisque maintenant on a plus tendance effectivement à aller sur des univers transmédia, et les focus sont plus sur les univers. Oui.
Après, pour revenir juste sur Tolkien, effectivement, son univers est fait après, on va dire, l'aventure de ses héros, mais dans sa construction, dans sa démarche, il a construit petit à petit, en bout de notes sur des calepins à gauche et à droite, que son fils a ensuite compilé pour en faire le Seigneur des Lions ou d'autres choses. Il avait un univers dans lequel ses personnages évoluaient. Mais ce qui change, c'est que son univers, lui, ne nous l'a pas communiqué. Il nous a communiqué un roman. Ouais. Juste très rapidement.
Je reprécise sur Tolkien. Non, son grand œuvre, c'est le Silmarillion, qu'il a écrit depuis le début, qu'il n'a jamais pu finir. Donc il voulait créer une genèse pure et dure, c'est pour dire, là j'ai un petit peu de mal, je vais juste écrire le Seigneur des Anneaux. Juste pour dire que le point de départ, c'est quand même l'univers.
Mais c'est pas ce qui a été communiqué.
Non, tout à fait.
Donc on va enchaîner sur le dernier point, si vous voulez bien, tous ensemble. Non, tu veux pas, c'est là-bas. Alors, c'est un point que je ne maîtrise pas encore totalement. Je préfère le dire. C'est ce qu'on appelle le dogme du peuple, si ça vous dit quelque chose. Alors, c'est quelque chose que j'ai lu sur pas mal de forums de jeux de rôle, dans lequel, selon cette théorie-là, la narration devrait être bornée strictement à ce sur quoi les personnages passent. Non, c'est pas ça ?
Qui pense ça, lève la main ? La narration doit être bornée, une histoire doit être bornée.
Et je finis, tu pourras me corriger après. C'est comme j'ai dit, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas totalement. Ce que j'ai compris, c'était justement la mise, pas en opposition, mais en choix, pour le joueur qui peut se lancer, entre deux systèmes de jeu. Les jeux type encyclopédique, où tout a été pensé, à la RuneQuest par exemple, on s'est dit pour tout est pensé, les règles pour tout ou presque. Et les jeux plus évocateurs, dans lesquels une plus grande part est portée à la narration. Je crois que c'est les 12 singes qui avaient publié Montségur.
Non, Ségur de Gers.
Comment ?
Les écuries de Gers.
Les écuries de Gers, voilà. Un petit jeu qui était complètement narrativiste et qui, dans lequel il n'y avait quasiment pas de règles. Donc voilà. Tu veux peut-être représenter l'œuvre
En tant que maître de jeu. Ouais, alors moi, en tant que maître de jeu, j'ai essayé de système. Elles sont totalement scénarisées, sans règles. Ça peut être marrant, ça peut être cool. Et à un moment donné, le MJ, il a tout construit. C'est un peu le problème. Mais bon, de l'autre côté.
Dans mon scénario, il n'y a pas de logique.
Non, le problème, c'est que déjà, les joueurs se sont très bien ensemble. Moi, je me retrouve dans une bibliothèque, les joueurs, de temps en temps, se connaissent même pas. Tout scénariser le jeu, c'est encore plus dur. Mais de l'autre côté, s'il y a trop de règles, ça, à nous, on va se permettre de ne pas utiliser certaines règles, carrément en modifier pour adapter aux joueurs, comme ils ne connaissent pas le fond, c'est pas l'univers. Et voilà.
Du coup, en fait, quand je parlais de ce choix entre les univers encyclopédiques et les univers plus évocateurs, en fait, ta question a amené la transition naturelle vers le débat, comme quoi le monde est merveilleux ce soir, je tiens à dire. En fait, voilà, c'est ça. C'est, d'un côté, on a des univers qui sont pensés, structurés, il y a le setting qui est mis en place, et d'un autre côté, on a des univers dans lesquels c'est comme ça. On a une narration, on doit, entre guillemets, s'y tenir. Et je voulais savoir, lancer un débat entre vous et avec le public, avec la convention, le monde, tout le monde.
Ouais, mais monsieur Jaune Poussin, là, qui veut parler.
Monsieur Jaune Poussin, merde. Et encore. J'avais juste une question, c'est un truc qui me choque depuis la conférence. Oui. Vous avez écrit JDR et littérature, depuis quand littérature, c'est mieux de roman, pourquoi ne pas parler de BD, de comics, de manga, etc. C'est aussi de la littérature.
C'est maintenant que tu le dis.
Tout à fait, c'était simplement un parti pris parce que nos intervenants pour... Non, c'était juste un parti pris de ma part, bien sûr. De rester sur le roman, parce que la BD, déjà, je ne connais pas grand-chose. La nouvelle un peu plus, mais voilà. C'était rester sur le média roman et le média... cas, jeu de rôle. Mais effectivement, la littérature, ce n'est pas que du roman. Désolé.
J'aurais une réponse qui pourrait toucher à la fois à ce que tu dis et à la question de la taille de l'univers. Sincèrement, je ne crois pas que la frontière entre littérature et jeu de rôle, donc dans ce sens-là, soit tellement poreuse. Les littérateurs de l'imaginaire, il y a des pans entiers, mais vraiment entiers, qui ne sont pas abordés par le jeu de rôle. Il est où le jeu de rôle Gormenghast? Vous savez, Gormenghast, c'est les bouquins de Merwin Peake qui ont inspiré des gens comme Dee Upperton, enfin, qui font partie de trucs très sombres, et où justement, contrairement à Tolkien, ont des univers très, très larges, ont des univers très restreints. Gormenghast, ça se passe dans un château. Ils sont les jeux de rôle pour jouer des trucs comme Borges. Vous savez, Borges, c'est les. Bah justement, on parlait de BD, c'est les trucs à la. Enfin, c'est ces nouvelles toujours qui donnent un peu le vertige à Saint-Elo et qui ont un peu leur pendant dans les cités de Schulten et Peters, là. Enfin, si, je sais plus comment ça s'appelle. Il est où le jeu de rôle pour jouer des trucs comme Féerie pour les ténèbres du Jérôme Noirès, qui est aussi un univers, en fait c'est un espèce d'univers de fantasy qui est défini comme ça, quoi. Et il y a des décharges de nous qui ressortent de la Terre. Tout le monde trouve que c'est absolument formidable, ils s'habillent avec des sacs plastiques, et puis, enfin, vous voyez, des univers assez glauques. Il est où le jeu de rôle pour jouer des... Je vais prendre un exemple. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des choses comme Volodine, voilà. Antonin Volodine, qui a aussi de la littérature de l'imaginaire, mais qui, c'est un peu ce qu'on appelle la littérature interstitielle, c'est-à-dire ça rentre pas dans un genre, c'est pas exactement de la SF, c'est pas exactement de la fantasy, enfin voilà. Tout ça pour dire qu'il y a énormément encore de littérature à s'approprier si on construit des jeux en essayant de s'approprier de la littérature, et on a pas fini. Et entre autres, effectivement, dans les univers de BD ou de comics.
Je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais, juste peut-être dire, oui, tu dis où sont les jeux sur les Gormenghast, tout ce que tu cites là, aussi bien ils existent, ils ne nous attendent pas, c'est-à-dire là on parle des jeux édités, parce qu'ils ont une volonté d'être diffusés ou sur le web gratuitement ou commercialement, mais en plus c'est drôle, Gormenghast, je connais des joueurs qui en jouent.
D'accord.
C'est ce qui veut dire que, en fait, c'est aussi la force du jeu de rôle, c'est-à-dire à un moment, il suffit d'avoir une mécanique, une envie des joueurs, on se dit, tiens, on se fait une partie, on se refait les Watchmen, on se refait. Donc il y a ça aussi, il y a entre guillemets un petit peu d'humilité. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de limite pour le genre de jeu de rôle. S'il a un coup de cœur, il peut l'adapter. Il y a plein de gens qui ont pu adapter Harry Potter sans qu'il y ait des règles Harry Potter. Voilà, ça prouve bien que. Il ne faut pas qu'il y ait. Faire attention, peut-être, il n'y a pas besoin que ce soit officiel pour que ça existe aussi.
Oui, mais à nouveau, c'est pas ce que je dis, si tu veux. Le problème, c'est que ça m'intéresserait beaucoup de voir ce qu'ils ont fait pour faire du Gormenghast, parce que je ne vois pas un système de jeu avec des compétences et un scénario à l'ancienne.
La personne ayant oublié son agenda avec un mot pour ma petite nouille adorée, et puis il devient...
Voilà, donc pour Gormenghast ou pour Borges, si tu te souviens des nouvelles de Borges, tu peux pas faire un système de compétences, quoi. Enfin, ta hache, enfin, ou même un système de combat, quoi. À quoi ça sert pour jouer du Borges? Donc, si tu veux, je serais très intéressé de voir comment ils s'en sortent, mais pas seulement, c'est pas seulement utiliser un système, c'est aussi le faire rentrer dans les enjeux spécifiques de ce type de fiction.
Peut-être si Jean-Laurent veut juste réagir en une ou deux fois dans ce qu'elle dit, ça vient.
Il y a plus de quelque chose, je passe sur lui.
Mais il y a peut-être dire quelque chose, et après moi je parle.
D'accord. Donc juste. Oh oui, ça serait intéressant. Après, voilà, j'ai peut-être aussi des groupes qui n'ont pas envie de, entre guillemets, pas envie de partager. C'est que toi, tu es vraiment dans une analyse assez méta, en fait, du jeu. C'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui enfin, j'en fais partie, mais vraiment, je ne réfléchis pas autant que toi aussi. Moi, je joue autour d'une table, je pense. Sans gamme. Juste, je reprécise un truc très vite. Sur les univers, tu disais les univers encyclopédiques ou les univers ressentis. Ce qui est intéressant, c'est que l'univers encyclopédique, s'il vient d'un monde littéraire comme Tolkien ou autre, ce qui est intéressant, c'est que le MJ n'a pas la main. Généralement, c'est la communauté de fans et de joueurs qui sera beaucoup plus porteuse du respect de l'univers, en fait, que le MJ ne l'est souvent. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un basculement, c'est-à-dire que le MJ n'est plus garant de l'univers. souvent les joueurs vont dire attends là, ton gobelin là, il n'est pas codex. Voilà, c'était juste pour dire ça, que c'était intéressant aussi que cet aspect-là soit rebasculé au niveau du joueur, donc il prouve qu'effectivement on passe du roman qui est la source directement au joueur.
Très basiquement, le vrai intérêt de l'univers ressenti, c'est de respecter l'univers encyclopédique, sinon il n'y a plus de sens du tout à l'univers ressenti. Tu ne vas pas faire de l'univers ressenti sur quelque chose que tu vas tordre, retordre, retordre et qui ne ressemble plus à rien. Donc on va faire juste une expérience très simple. Par exemple, vous qui êtes, j'imagine, lecteur, vous lisez un roman, vous avez envie de revivre exactement le roman que vous avez lu, ou vous avez envie de faire votre propre histoire issue du roman. Vous avez envie de faire votre propre.
Le fantasme du lecteur, donc il faut faire sa propre histoire. Alors, donc, moi, je pense, en tant que lectrice, c'est plus. On va vouloir refaire une histoire à nos propres, réaliser notre fantasme de lecteur, que certains personnages ne peuvent pas forcément mourir, et des choses comme ça. Dans Game of Thrones, les lecteurs, on est tous tellement frustrés, par exemple, des morts qu'il y a eu. C'est un exemple.
Sans déconner.
Et voilà,
c'est. Je vais prendre la dernière question de M. Poussin.
Je disais ça simplement pour la remarque sur ce qui n'a pas été adapté. Je repensais à ma longue carrière de rôliste et au nombre incroyable de jeux. Amateur que j'ai eu l'occasion de tester, de voir passer le jeu de rôle de la collection Arlequin. Vous imaginez le contenu. Et si vous ne jouez pas dans les. Si vous jouez trop méchant, vous basculez dans l'autre jeu de rôle du même auteur, SAS, mais vous gardez vos compétences de la collection Arlequin, ça va être dur. Et vice versa, vous jouez SAS, et si vous êtes trop gentil, vous basculez avec vos compétences un peu lourdes dans le jeu de rôle Arlequin. Voilà un exemple. J'ai vu adapter Ran pour les chevaliers du Zodiac. Il y a énormément d'adaptations qui ne sont jamais sorties du cercle de joueurs. Pour certaines d'entre elles, heureusement qu'elles ne sont jamais sorties du cercle de joueurs. Et on a quelques exemples de jeux qui sont sortis malheureusement du cercle de joueurs et qui n'auraient pas dû. Donc voilà, Magnus par exemple, qui est apparu récemment ici, est un jeu qui n'aurait jamais pu sortir du cercle de joueurs. Mais voilà, on trouve des joueurs, alors, soit qui testent, qui créent des jeux, mais alors, tous les mois j'en ai vu. Sont inventés un des mois, puis on est conscient. Soit on a des groupes de joueurs qui font leur propre jeu, qui jouent en des années, qui le maîtrisent parfaitement et qui ont un truc qui est absolument incompréhensible et inglacial, que ce soit donc le groupe de joueurs. Parce que oui, il faut plus la complexité, ça fait des années que je joue dedans.
Donc pour ça, parce que ça va te couper, ça tournerait à la privée de job en fait, et plus au jeu à proprement parler de communauté.
C'est un jeu de rôle, tu peux le reconnaître par la série, mais il n'empêche qu'il est injouable, pas que ce soit d'extérieur. Donc, la partie édité des jeux de rôle, c'est quand même la partie émergée d'iceberg. En termes de diversité, de règles, de mécanismes et de l'univers, tout a été adapté à peu près autant que les fanfics, c'est parfois avec d'autant qu'il y a des fanfics. Je suis sûr que quelqu'un est en train de faire un jeu de rôle où il y a un cyberpap sodomite et un
Ça reste entre nous.
Juste pour t'assurer. Ajouter un dernier élément sur l'histoire de l'univers petit ou grand. Il y a plein d'œuvres de fantasy, et qui vraiment là sont catégorisées fantasy, hein, c'est pas de l'interstitiel, qui justement cherchent à avoir des univers qui ne sont pas des univers encyclopédiques, qui changent tout le temps, qui sont bordéliques, qui reviennent en arrière, qui se contredisent volontairement, en partie parce qu'ils sont aussi là pour. Enfin, ils cherchent à se débarrasser de l'héritage de Tolkien. Et à former des univers voilà, qui ne sont justement pas des univers monde et où l'univers change à peu près selon les volontés de l'auteur. Tout ça pour dire que dans la littérature aussi il y a des choses très très diverses.
Merci pour vos interventions. Merci. Ça qui est très bien quand on fait ce genre d'événement, c'est qu'on se rend compte toujours de la petitesse
dans
de notre.
Dans une dizaine de minutes, Raphaël Colson donnera une conférence sur le post-apo dans la salle de conférence. Il abordera le sujet par l'angle économico-culturel. Rendez-vous dans une dizaine de minutes à la salle de conférence. pour une conférence animée par Raphaël Colson sur le poste à
si tu sais que Pâques, t'as fini, t'as fini.
Ouais, c'est ça. Donc oui, donc c'était voilà, même dans le public, dans les intervenants, voilà, on a toujours à apprendre. Et j'ai volontairement voulu axer par les questions dès le départ et par les formulations sur les vases communicants entre littérature et jeux de rôle à partir d'univers qui sont soit des créations littéraires, soit des créations de jeux de rôle. On n'a pas pris d'autres exemples, il me semble. Mais il existe, ou alors, peut-être que je ne connais pas vraiment, mais il existe par exemple des univers comme Warhammer, comme Nullbuck, qui ne viennent pas du tout de la littérature ou du jeu de rôle, et qui ont pourtant donné les deux. Et donc, il y aurait, au point de vue de tout ce qui est narration, place des personnages, le partage et toutes les mille vesées que nous avons ressassées depuis une heure et demie, il y aurait, je pense, beaucoup à dire à ce propos-là, mais c'était volontairement axé pour ne pas se parler. Voilà, parce que c'est tout l'art d'un bon discours, c'est de ne pas parler de ce qui nous gêne. Mais sur ce, je vais conclure.
Merci.
Merci à vous.